Des goûts et des couleurs.
Des goûts et des couleurs.
Des goûts et des couleurs, le rendez-vous culturel de Radio Notre-Dame. Une émission présentée par Paul Salina.
Après l'échec des pourparlers entre le patronat et les syndicats du bâtiment, des débrayages s'étendent à tout le secteur. Des négociations débutent à la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre. Le 26 mai, ces négociations butent sur l'obstination d'une partie du patronat qui refuse toute augmentation, tandis que certains dirigeants se disent prêts à l'accorder. Une foule se masse devant les bâtiments où se tiennent les négociations et très vite, la situation dégénère. Le préfet, Pierre Bolotte, donne aux forces de police l'ordre de tirer sur les manifestants. Aux environs de 15h, les premiers corps s'affaissent sur la place de la Victoire. La colère qui grondait déjà éclate, donnant lieu à de violentes échauffourées dans le centre de la ville. Des képis rouges supplémentaires sont dépêchés en Guadeloupe et, sillonnant la ville durant toute la nuit, procèdent à des tirs sans sommation et des arrestations. Le nombre exact de morts dans la population civile demeure encore inconnu, car ces événements sont classés secret défense jusqu'en 2017. Après une annonce officielle de 5 morts, on atteint aujourd'hui le chiffre toujours officieux, mais révélé par des officiels, de 87 morts. Bonsoir Gertie Damburi.
Bonsoir.
C'est l'avant-propos de ce roman qui est paru aux éditions du Manguier, Les Rétifs, et qui revient sur un moment terrible de l'histoire de la Guadeloupe. Un moment que vous tentez de révéler à travers ce livre. On reviendra bien sûr sur cet événement que beaucoup de gens ignorent, et c'est aussi très courageux et très 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 méritoire de faire mémoire au nom de tous ces disparus à travers l'histoire de cette petite fille à la recherche de son père. On est très heureux aussi de vous avoir parce que vous êtes une des grandes voix de la littérature caribéenne, guadeloupéenne, de langue française. Quoi, vous connaissez aussi très bien l'anglais. On reviendra bien sûr sur votre itinéraire avec Yves Chemla. Bonsoir Yves.
Bonsoir Paul.
Alors,
bonsoir.
On est heureux naturellement que vous nous présentiez Gertie Damburi et son œuvre. Et puis à la fin de cette émission, nous avons la chance d'avoir comme très souvent chaque semaine, l'ami Patrick Brion. Bonsoir Patrick.
Bonsoir Paul.
Patrick Brion qui va donc évoquer quelques films d'actualité.
Un nouveau et un ancien.
Comme souvent, voilà. Un nouveau, bon, et les anciens pour les fondamentaux.
Oui, c'est presque, oui.
Bon. Mais revenons, si vous le voulez bien, à ce roman Les Rétifs, Gertie Damburi. Alors moi, c'est une histoire que j'ignorais complètement. Une histoire, évidemment, je savais qu'il y avait eu à cette période-là des très fortes tensions en Guadeloupe, mais effectivement, comme vous le dites dans votre avant-propos, avant d'entrer dans l'œuvre littéraire que vous allez en faire, l'étendue des victimes est considérable, 87 morts.
Ou davantage. Pour l'instant, on ne sait absolument pas. On ne sait absolument pas. Les premiers, comme je dis, la première annonce, c'était 5 morts, ensuite 7. Et puis un jour, en 2002, après, au moment où, je crois que c'est M. Lemoine, qui était ministre des départements et territoires d'outre-mer, a annoncé, laissé passer le filtré, le chiffre de 87 morts. Mais on ne sait absolument rien, en réalité. Et c'est ça qui est surprenant. C'est que 67, ça fait quand même longtemps. Et les familles n'ont pas parlé, non plus. Donc il y a une intériorisation du silence, d'une certaine façon. Et alors, la raison, disons que la raison pour laquelle je me suis penchée sur cette question, c'est que d'abord, j'avais déjà écrit un texte, mais c'était de la poésie, un poème là-dessus, mais une espèce de souvenir flash comme ça de mon enfance. J'avais 10 ans à l'époque. Et en 2009, au moment des événements de 2009 en Guadeloupe, cette grande grève qui a duré 44 jours, le jour où j'étais en Guadeloupe et le jour où le ministre Yves Jégo a quitté la table des négociations, a été rappelé par le premier ministre François Fillon, quand il est parti, qu'on a découvert, enfin que les syndicats et les associations qui l'attendaient pour la négociation ont découvert qu'il était parti, sans prévenir d'ailleurs, la tension est montée d'un cran et ce qui courait dans les rues c'était que mai 67 allait se reproduire. Et il y avait une véritable peur chez les gens, une espèce de panique comme ça. J'avais rendez-vous avec une amie, je l'ai récupérée. Quand elle a su qu'il était parti, Monsieur Jégot, elle m'a dit « ramène-moi chez moi, ramène-moi chez moi, ramène-moi chez moi ». Et donc, il y a eu le fait de sentir à ce point que c'était dans les mémoires, que même si on n'en parlait pas, c'était plus que dans les mémoires, c'était dans les corps, c'était dans les inquiétudes. Ça m'a donné envie de travailler sur ce sujet.
Et alors pour justement écrire ce livre, travailler sur ce sujet, c'est revenir à des souvenirs plus anciens que de votre propre expérience de petite fille alors. C'est récolter aussi des témoignages auprès d'un certain nombre d'habitants de la Guadeloupe.
C'est récolter des témoignages. Il existe un peu de documentation. Hein. Il y a une série de petits films très très, très courts, de petits documentaires qui ont été faits et qui interrogent, dans lesquels sont interrogés en particulier des infirmiers, des infirmières, des gens des hôpitaux qui ont vu arriver des blessés, qui ont vu arriver, qui ont vu des morts, qui ne peuvent pas dire exactement le nombre de morts qu'il y a eu non plus, puisque tout était disséminé. Il y a également une revue qui s'appelle la revue Études Guadeloupéennes, qui a sorti un numéro là-dessus où non seulement il y a une analyse historique, politique, tout ce qu'on veut, mais il y a aussi un fils qui a perdu son père ce jour-là. Son père, on leur a rendu le corps absolument tuméfié, méconnaissable, et c'était la première fois qu'il en parlait. Donc ça, c'était en 2005. Et puis, évidemment, j'ai rencontré des gens, ceux que je remercie au début du livre, entre autres Jean-Claude Courbin, qui était lycéen, et qui, lui, a tenu entre les mains la cervelle d'un de ses amis. Et donc, j'ai un peu fait le tour comme ça, mais je me suis surtout fiée à une impression personnelle, qui est l'incompréhension. C'est pour ça que j'ai choisi cette petite fille. C'est-à-dire que c'est comme quelque chose qui éclate au milieu d'une vie relativement banale. Tout va, les choses se font, la vie va. Et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose et c'est l'incompréhension et cette incompréhension perdure.
Yves Chemla ?
Moi, je suis présenté. Pardon, je vais revenir. Je vais présenter un tout petit peu Gerty Dampury.
Après, on reviendra.
Et on reviendra au rétif, bien évidemment. Je vous prie de m'excuser. Vous êtes né en 1957. Vous l'avez dit tout à l'heure à Pointe-à-Pitre, et vous avez passé votre enfance donc en Guadeloupe. Et il y a une rupture puisque vous êtes venu en métropole. Et puis, vous avez fait vos études, une partie de vos études secondaires en métropole. Et puis, vous êtes installé en 1981 en Guadeloupe. Et là, vous avez commencé à écrire, et à écrire pour la scène, pour le théâtre. Mmh. Hein, et donc, il y a ces allers et retours qui sont là, en tout cas, cette circulation. Et actuellement, vous habitez en région parisienne, si j'ai bien compris. Et depuis 1987, vous écrivez, vous jouez, vous mettez en scène vos propres textes.
Oui.
Jusque-là, ça va.
Oui, jusque-là, ça va.
Jusque-là, ça va.
On peut apporter, bon, mais ça va. On peut préciser, mais ce serait trop long.
Tout ça pour dire que pour rappeler un spectacle qui est complètement oublié ici, enfin qui n'est pas connu, qui est un spectacle de 88, Bâton Maréchal. Qui a eu quand même un succès important et qui est resté en scène pendant plusieurs années. Oui. Qu'est-ce que c'était, Bâton Maréchal ?
Bâton Maréchal, c'était la vie quotidienne sous Vichy. Et c'est une période qui est très importante.
La vie quotidienne en Guadeloupe.
Qui est très importante chez nous. C'est-à-dire que c'est assez étrange. les gens qui ont connu cette période la présentent comme une période extraordinaire. Alors que c'était une période de vache maigre. Hein. Quand on est coupé de la France, on est coupé de ce pays qui nous envoie à manger, etc. Bon, des salaisons, toutes sortes de choses. Et donc, nous avons eu un gouverneur, l'amiral Saurin, qui a fait vivre le pays sur ses propres ressources. Donc les gens ont fait leurs chaussures, ils ont fait du savon, ils ont utilisé ils ont mangé énormément de choses qu'ils ne mangeaient pas parce que c'était déconsidéré. Et les gens de cette période disent au temps de l'amiral Saurin, s'il n'y avait pas Antan Saurin, on pouvait être pas indépendant, mais en tout cas autonome. Antan Saurin, les enfants respectaient les adultes, parce que Saurin était aussi très très directif. Hein.
C'était l'ordre moral.
L'ordre moral de Vichy. La remise du Christ dans les écoles, enfin voilà tout ça. Donc c'est autour de toutes ces choses que j'ai essayé de percevoir. En fait, il faut que je vous dise que j'ai écrit Bâton Maréchal d'abord. J'avais écrit simplement deux tableaux parce que Raphaël Confiant présentait son ouvrage
Le Nègre et grand écrivain
de Le Nègre et l'Amiral, exactement, de la Martinique cette fois. Le Nègre et l'Amiral et la librairie de Pointe-à-Pitre, la librairie Jazor m'avait demandé de faire un petit quelque chose avant la présentation de l'ouvrage de Raphaël Confiant. Et voilà, j'ai fait deux tableaux. Et ça a tellement plu au public que du coup j'ai été obligée d'écrire toute la pièce. Effectivement, ça a duré très longtemps.
Très intéressant parce que ça commence quand même par un travail sur la mémoire.
Oui.
Et sur la mémoire, et une mémoire presque réversible.
Alors là, c'est l'âge d'or. C'était le bâton maréchal, c'est la mémoire de l'âge d'or.
Pour les gens, pour une certaine partie de la population, oui. Hein, pas du tout pour la population qui était qui partait combattre aux côtés de la France. Hein. On a connu des gens qui ont pris le bateau, qui sont allés à la Dominique, parce que la Dominique était anglaise, et qui de la Dominique rejoignait Londres pour aller se battre avec rejoindre le général de Gaulle. On a connu aussi des gens qui ont été emprisonnés, enfermés dans des cachots, etc. Tout le monde n'était pas d'accord avec le régime de Vichy ni avec l'amiral Saurin.
Tout ça pour dire que très rapidement, évidemment, votre carrière théâtrale, elle prend de l'ampleur. Il y a eu Tram en 2008 et j'ai lu quelque part qu'il y avait une écriture en 2011, les Atlantiques amers.
Oui.
Pardon. Voilà, donc on attend
ils
un peu ça.
Ils sont aussi sur la mémoire.
En 99, vous avez publié un recueil de nouvelles que, pour ma part, j'ai beaucoup apprécié, Mélancolie, et qui a été repris aux éditions du Manguier, avec une suite d'étranges et parfois un peu inquiétantes histoires. C'est ça qui m'avait frappé, qui met en scène les relations difficiles entre les êtres, ou les relations ambiguës, toutes ces zones grises. Et c'est aussi un texte qui fait apparaître des personnages d'outre-tombe, d'une certaine façon, et qu'on va retrouver. Ben, évidemment, qui est-ce qui peut mieux porter la mémoire que les personnages d'outre-tombe? Ça, c'est un peu une évidence. Et c'est ce qu'on va un peu retrouver, dans les rétifs. Je vais peut-être vous frapper, alors c'est peut-être une allusion un peu facile, mais les rétifs, quand je les repris, hein, parce que c'est un livre autour duquel j'ai pas mal tourné ces dernières semaines, ça ressemble pour moi à un théâtre de la mémoire. Mmh. Voilà, et dans lequel, voilà, on ouvre, on a cette petite fille qui est assise dans une cour, dans une atmosphère, c'est mon souvenir de lecture, dans une atmosphère pas nocturne, mais presque en tout cas. Elle est sur son banc et elle attend son papa. Et elle attend son papa. Et à ce moment-là, elle veut chercher à comprendre un événement qui est quand même un événement finalement sans importance. Mmh. Voilà, la maîtresse a dit qu'elle partait.
Oui.
Okay, et puis on va voir un cœur, peut-être les frères et les sœurs, on reviendra sur le... sur la famille, sur la fratrie, parce que là, la désignation et les prénoms de la fratrie méritent peut-être une interprétation, ou alors en tout cas une explication, déjà une interprétation peut-être pas, et qui vont se mettre comme un cœur, qui vont entourer la petite fille, et puis on va voir apparaître un certain nombre de personnages dont on découvre finalement peu à peu, pas directement, qu'ils sont morts. Et ils vont raconter, ils vont permettre à cette petite fille, peut-être de comprendre un peu ce qui se passe. Ils vont lui raconter l'histoire de sa famille et puis ils vont l'aider à comprendre ce qu'elle a vu, mais qu'elle n'arrive pas à s'approprier.
Parce qu'elle a assisté ?
Oui, elle a assisté aux événements. En fait, la trame, c'est très rapidement, c'est que cette maîtresse d'école qui a disparu, c'est pas n'importe qui. C'est une maîtresse d'école tout à fait différente des autres et qui a un rapport avec ses enfants, qui a un rapport formidable. Et c'est une maîtresse qui commence à leur ouvrir les yeux sur ce qu'elles sont, qui elles sont. En plaçant un peu cette Guadeloupe dans un environnement beaucoup plus large, hein. C'est la Guadeloupe, c'est la France, mais c'est aussi l'Afrique, et c'est aussi l'Amérique, etc. Et puis aussi qui travaille sur les relations entre ces petites filles, en essayant d'éviter les exclusions, les rejets, les gestes de rejet de celle-ci parce qu'elle est trop pauvre, de celle-là parce qu'elle est trop noire, ou de celle-là parce qu'elle... Bon, peu importe. En tout cas, événement apparemment sans importance que la disparition de cette maîtresse. Et de la même façon qu'il va y avoir une grève, il y a la grève des ouvriers du bâtiment, il y a la grève des petites filles. C'est-à-dire que les petites filles refusent qu'on les envoie chez d'autres maîtresses que leur maîtresse d'école qui a disparu, qui en réalité a certainement... On ne sait pas ce qui lui est arrivé, mais a été inspecté et l'inspection n'a pas été faite par hasard. Et donc, elle refuse de se laisser orienter vers d'autres maîtresses. Et c'est comme ça que la petite fille se retrouve sur la place de la Victoire, refuse d'aller à l'école et assiste aux événements. Effectivement, ce qui se passe dans cette cour, c'est la nuit. En effet, elle attend son père et elle dit qu'elle attendra son père toute la nuit s'il le faut. Donc on est le soir et elle va être là au milieu d'ombres. Disons que c'est comme des ombres qui tournent autour d'elle. Et ces ombres sont d'époques différentes. Donc elles ont vécu des époques différentes de l'histoire de la Guadeloupe et de l'histoire de sa famille en même temps. Et donc, ces ombres vont lui permettre petit à petit de découvrir, on ne sait pas si elle découvre ou si elle comprend, mais en tout cas, essaye de l'initier à la réalité, aux réalités sociales de son pays.
Mais comme si, c'est vrai que c'est difficile de savoir, et finalement, peu importe, ce que c'est que le mécanisme de la compréhension chez une petite fille, de ce qui arrive, c'est pas ça peut-être l'essentiel. Mais en fait, qu'elle se l'approprie, ou que d'une certaine façon, intérieurement, ces événements l'accompagnent. Et c'est peut-être ça, c'est comme ça que se fabrique la mémoire. Peut-être la mémoire se fabrique pas avec de la compréhension, mais avec justement des points d'accroche. Revenons sur le titre, parce qu'on n'a pas parlé du titre. Alors c'est quand même assez extraordinaire. Le rétif, ça caractérise plutôt un animal, un cheval. Animal,
souvent, on l'utilise souvent pour un cheval, mais pas uniquement.
Mais pas uniquement. Oui. Je suis allé voir dans un dictionnaire, un gros. C'est pas uniquement un cheval, c'est une monture.
Une monture, oui.
Qui s'arrête ou recule au lieu d'avancer et refuse opiniâtrement. Donc
il y a un côté têtu, oui.
Il y a un côté têtu, oui. D'obéir.
Oui.
Et alors c'est là où on peut ensuite glisser et dériver. Le rétif, il est souvent réfractaire. Mm-hmm. Et il résiste à l'autorité. Et peut-être que précisément, C'est bien de ça dont il s'agit. Les petites filles, il y a une scène extraordinaire dans le roman, mais vraiment extraordinaire. La maîtresse n'est pas là. La directrice de l'école a une âme de délatrice, on va le dire aussi comme ça, plus qu'une âme de délatrice. Elle renseigne les autorités, les activités de la maîtresse. La maîtresse n'est pas là et donc on va disperser la classe. Il y a d'autres classes dans l'école. Et les petites filles disent, non, on ne bouge pas d'ici. On était ensemble, on reste ensemble. Et alors qu'on sent, dans la lecture, il y a une grande, grande, grande tension. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose comme un moment lumineux. La posture de ces enfants devient, pas une posture d'adulte, mais une posture effectivement de résistance et de réfractaire. Et on se dit, oui, bah c'est là où ça se passe. Parce que ça, c'est très important, parce que dans le roman, la question de la résistance et du caractère rétif, c'est précisément, ça arrive très très souvent, mais c'est inversé. Oui, ou après coup. Ouais. Hein, on va revenir aussi sur ces épisodes-là. Donc ce théâtre de la mémoire, dans lequel les personnages tentent de résister au fait que les chiens sont lâchés. C'est une expression que je reprends. Donc c'est aussi un texte, on va mettre un peu les pieds dans le plat, très très fort, par sa nature, le mot que j'ai utilisé est assez trivial, par sa nature anticolonialiste, je vais risquer le mot.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il entre, c'est un texte dont j'ai voulu qu'il entre dans le... tout au fond de ce qui est allé se déposer chez les gens.
Dans l'intime.
Dans l'intime. Et qui, à chaque fois, se rebelle à un moment. C'est-à-dire qu'il y a l'acceptation, il y a le sourire complice, il y a le silence devant les choses que l'on voit, il y a le... Et puis, à un moment, ça n'en peut plus, il faut que ça résiste, oui.
La première étape avant la délation, c'est le sourire complice. Le tout premier pas, c'est le petit rire qui acquiesce à l'indignité avec la tête baissée. Et on est effectivement dans une vision du corps et du corps soumis, là, très très, très, très fortement. Oui. C'est pas simplement, là, pour le coup, une intériorité, c'est la manifestation de cette intériorité. Il y a une très très forte, je fais une petite digression ici, mais il y a une très très forte présence du corps dans le roman. Du corps des petites filles, du corps des adultes, de la question de la perruque, de la chaleur sous la perruque, la question des chaussures. On est dans un environnement tropical, c'est une évidence, vous êtes très très sensible à cette présence-là des corps, justement. Des corps qui à un moment donné, tentent de résister et puis ne résistent pas. D'une certaine façon, acceptent la vêture imposée par les autres.
Mais précisément, deviennent rétifs à un moment donné. Mmh. C'est-à-dire que les rétifs, ce sont toutes les petites filles, mais tous les personnages. Tous les personnages sont rétifs. En réalité, je n'avais pas de titre au départ. J'avais un titre un peu littérature contemporaine française. C'était la dernière phrase du roman. J'attends toujours que tu sonnes. Je me suis dit, oh, c'est joli, j'attends toujours que tu sonnes. C'est comme il faut apprendre à finir, etc. Et puis... Alors je me suis dit, oh non, ça fait trop... Non. Et alors, j'avais choisi désobéissance, parce que je me rendais compte que ces personnages désobéissaient tous à un moment. Et ça, c'est là pour la petite histoire. L'éditeur me dit, écoute, désobéissance, c'est beaucoup trop long. Ça n'entrera pas dans la page de garde, ou alors il faudra faire sur la couverture, ou alors il faudra faire un tout petit. Et désobéissance en tout petit, c'est vraiment dommage. Alors j'ai réfléchi, et puis j'ai trouvé ça m'est venu spontanément, je me suis dit oui, ils désobéissent, mais ils ne font pas que désobéir, ils sont rétifs. C'est-à-dire que ils avancent un peu, mais quelque chose en eux résiste. Effectivement, c'est très clairement lié au colonialisme, hein, oui. C'est très clairement lié à la relation que nous avons avec la France. C'est-à-dire que, instinctivement, tout à l'heure, vous m'avez dit, vous êtes parti en métropole. Et j'ai failli vous dire non en France. Ça fait partie de mon enfance. Dire aujourd'hui, c'est très courant que les gens disent « Oh, il est en métropole ». Mais quand j'étais enfant, il était interdit de dire « Je vais en métropole ». Mes sœurs me disaient « en France ».
Et cette distinction était une marque de...
Ah oui, c'était une marque de résistance. Et aujourd'hui, je suis toujours un peu surprise d'entendre des gens dire « Ah, tu vis en métropole ». De chez nous, enfin, des gens de chez nous. Que quelqu'un d'autre parle de la métropole, c'est normal. Enfin, je veux dire, ça fait partie du langage habituel. Mais quand Guadeloupéens disent la métropole, c'est très surprenant. Donc, il y a quelque chose de rétif chez nous, en effet.
Gerty Damburi et Yves Chelma, Patrick, on se retrouve dans un instant, mais tout de suite, un peu de musique.
Radio Notre-Dame.
Ça a été dur d'être un Macomer dans ce pays. Drôlement difficile, oui. La gouaille et l'arrogance n'ont rien changé à l'affaire. Il fallait faire face, c'est tout. Donner le sentiment que rien ne vous atteignait. Un calvaire. Tout un calvaire. Les regards réels et ceux que l'on imagine. Le doute sur les visages. Cette hésitation qui interroge. Dis-moi que ce n'est pas ce que je crois deviner. Certains ont tout le corps qui tremble, de révulsions incontrôlées. Ça panique sec quand ça se trouve confronté à un PD. Peut-être que ça panique parce que dans le fond c'est attirant tout bonnement, c'est tentant de se laisser aller à faire des choses interdites, à se livrer à la petite proposition qui sommeille au fond de soi. Moi-même, qui ai toujours su que je préférais les hommes, il m'est arrivé de me sentir tout chose devant une femme qui s'offrait à moi, qui se proposait naïvement sans savoir à qui elle s'adressait. Il suffit d'une odeur, d'une douceur de la peau, d'un petit moment d'abandon, où on est comme ça, tout près de l'autre, et on sent battre ce sang. On entend ce corps qui vous appelle. On se sent frémir d'en bas et tout et tout. Alors on a bien envie de se laisser aller parce que un petit besoin de tendresse, parce que vraiment ça fait un bout de temps qu'on n'a rien eu à se mettre entre les bras. C'est ça, rien à se mettre entre les bras, à tenir contre soi pour sentir exister son propre corps et retrouver le parcours de son sang, savoir qu'on est vivant et qu'on palpite encore.
Merci Gerty Damburi de nous avoir lu un extrait de votre roman, votre très beau roman publié aux éditions du Manguier, Les Rétifs. Yves Chemla, vous aviez demandé pendant cette courte pause musicale à Gerty Damburi de choisir plus particulièrement cet extrait.
Je trouve qu'il est d'une... il résonne à plusieurs niveaux. Vous avez dit dans un entretien, je fais un travail de fiction qui se base sur le sentiment d'incompréhension, qu'il y a quelque chose qui explose brutalement au milieu d'une relative tranquillité. Le sentiment qu'on a à la lecture du roman, c'est effectivement ce caractère très très fort de la fiction qui dit, par toute une série de notations, quelque chose qui a à voir peut-être avec la mélancolie, enfin certainement avec la mélancolie, mais l'intériorisation d'une violence extérieure qui est proprement indicible. Et là, elle apparaît de manière très très forte. Non pas la violence, mais le besoin de résister, encore une fois, pas de résister, mais de neutraliser, voilà, de neutraliser cette violence. Dans l'affection, dans le contact des corps, dans quelque chose qui est pas d'un érotisme particulièrement torride, mais qui est ce besoin d'affection et de tendresse. Tout le livre, il est traversé par cette demande chez tous les personnages. Et ça m'a frappé. Là, c'est d'autant plus fort que le personnage, lui, cède à la pression, puisqu'il se suicide. Et parce que, voilà, parce qu'il est dans un monde, visiblement, qui ne l'accepte pas, qui est incapable de le recevoir. Évidemment de l'accepter, mais c'est même
parce qu'il est homosexuel.
Parce qu'il est homosexuel, parce qu'il est objet de railleries incessantes. Mais pas seulement, c'est parce que aussi cet environnement est d'une très très grande violence. Les relations entre les personnes sont pleines d'ambivalence, d'ambiguïté, de difficulté à dire quelque chose qui arrivera à la fin, mais on ne va pas tout dévoiler, qui va être un fabuleux discours d'une très grande affection. Un patron à son employé. Enfin, c'est un moment qui est lumineux et pourtant on est alors là en pleine tempête. Mais il a fallu cette tempête pour que précisément éclate cette exigence d'amour quoi, qui est chez les personnages.
Jacine Ambury.
Oui, c'est en fait ça traverse tout mon travail finalement. Enfin tout ce que j'écris ou essaie d'écrire. Trame, par exemple, la pièce de théâtre Trame, et qui se termine aussi très, très, très brutalement, c'est la même chose. C'est à la fois qu'il y a une parole qui n'arrive pas à se dire,
oui.
Il y a une histoire qui n'arrive pas à s'exprimer, et évidemment, tous ces non-dits créent forcément entre les gens. Des relations violentes, hein, de rejet, se sentir rejeté, quand on se sent rejeté, il est extrêmement facile de rejeter celui qui est en face, celui qui est le plus proche de vous, la plupart du temps. Et qu'il s'agisse de Trame, qu'il s'agisse de, je ne sais pas moi, de Carême. Carême est une pièce de théâtre qui est d'une très grande violence et qui aussi est quelque chose, est un souvenir de ma mère. Hein. Ma mère me racontait que quand elle avait 8 ans, elle était allée en vacances chez une amie de sa mère. Et quand elle est arrivée en Guadeloupe, toujours, quand elle est arrivée, donc elle quittait Pointe-à-Pitre pour aller au Moule. Et quand elle est arrivée là-bas, quasiment tout le village, il y avait personne là où elle allait, et quasiment tout le village était rassemblé autour de devant la maison d'une femme qu'on accusait de se transformer en soucougnant, en volant, en sorcière, etc., et qu'on avait brûlée. qui avait été brûlée et qui était sur son lit en train d'agoniser, et tout le monde était autour en train de regarder. Et une telle violence inscrite dans les mémoires, parce que c'est un peu ce que dit ce passage dont vous parlez, que je ne révélerai pas, puisque vous n'avez pas fait. Cette mémoire qui est inscrite dans cette violence qui est inscrite dans les mémoires, elle explose par moments de façon tout à fait inattendue, et en même temps, c'est une société où la générosité est extraordinaire. C'est-à-dire, alors pour faire un peu sourire, j'ai un ami qui est venu en Guadeloupe passer 15 jours ou 3 semaines chez moi, et qui aimait aller acheter le pain. Donc il y va une première fois, il y va une deuxième fois, et la troisième fois il me dit, tu sais, j'irai plus acheter le pain parce que la dame, elle a quelque chose contre moi. Je dis, mais la dame ne te connaît absolument pas, comment elle peut avoir quelque chose contre toi? Écoute, quand elle me rend ma monnaie, elle m'envoie ma monnaie comme ça sur le comptoir, et je pense qu'elle a quelque chose contre moi. Et je lui dis, mais non, pas du tout. Alors, on ira la voir. Donc on va la voir. Et je lui dis, écoute, je sais pas pourquoi, est-ce que ce monsieur t'a fait quelque chose de particulier? Elle me dit non. Je dis, mais parce que quand il vient, tu lui envoies ta monnaie. Elle dit, ah, moi je suis dans mes affaires, je pense à mes affaires. Et puis elle lui dit, mais non monsieur, mais je n'ai rien contre vous. Et tout de suite, avec une grande gentillesse, elle l'a accueilli pendant tout le reste de son séjour avec une grande gentillesse. Mais il y a les soucis de tous les jours. Mais les soucis de tous les jours, tout ça, ça s'exprime toujours par quelque chose d'un peu brutal, d'un peu brusque, d'un peu agressif. Et beaucoup de gens qui vont en Guadeloupe disent, ah, je ne veux plus y retourner parce que les gens sont agressifs. Voilà, mais c'est essentiellement là.
Et en même temps, et je pense qu'on va terminer peut-être sur cet aspect-là. En même temps, j'entends là ce que vous dites, mais en même temps, il y a le fait que il y a quand même dans la construction du roman cette montée vers la rage, vers le fait que tout d'un coup il y a quelque chose qui est devenu insupportable. Et là précisément, ça devient, comment dire, ça devient, c'est d'une très très grande finesse, parce que c'est pas simplement les gendarmes, c'est pas simplement la mainmise de ce pouvoir de l'extérieur, etc. Il y a aussi autre chose qui se passe, et qui est là aussi très difficile à dire, qui est cette espèce de peur qui est ancrée, et qui a cette incapacité c'est d'avoir été mis dans l'incapacité de protester. Si je peux le dire. Le personnage de l'aide-maçon qui a sauvé la petite fille, etc., dit à un moment donné, où précisément il est en train de ramasser des cailloux pour les balancer sur les forces de l'ordre, « J'avais cédé aux paroles de ma femme et à ma propre peur, celle que j'ai sucée au sein de ma mère, celle que mon père m'a transmise. » Et là, c'est très très fort, le fait qu'on transmet cette peur, et là où il y a quelque chose qui va même encore plus loin, celle qui nous a donné tellement de phrases toutes faites, des paroles, des proverbes, celle qui disait qu'on ne pouvait pas faire confiance à un autre nègre, la peur la plus profonde, celle qui fait réagir avec rage comme un dernier sursaut pour survivre, c'est cette rage qui a déferlé d'un coup sur la ville. Et comme si, effectivement, il faut arriver à ouvrir ça et à sortir de cette intériorité, de cette transmission qui a été complètement installée. Et c'est vrai que la question des proverbes, elle est essentielle, je crois, dans cette histoire. Essentielle. Moi, je l'ai vu de manière identique en Haïti, où ça devient insupportable.
Oui. Ça devient insupportable. Et puis, ce que je voulais dire, quand vous dites que ce n'est pas uniquement la mainmise...
Ce sera le mot de la fin, si j'ose dire. Hélas, on pourrait vous entendre des heures, tous les deux.
Ce n'est pas que la mainmise, c'est aussi une affaire de rétif entre eux. C'est-à-dire que c'est une relation à la colonisation, etc. Mais c'est une relation, c'est une affaire aussi entre eux. Parce que cet entrepreneur de travaux publics, ce n'est pas un étranger, c'est aussi quelqu'un du pays. Et donc, voilà, il y a quelque chose aussi qui se passe entre eux, qui mérite d'être regardé. Voilà.
Explorer, regarder, et cette mémoire en tout cas que vous nous rappelez magnifiquement. Merci beaucoup Gerty Damburine, dans ce très très beau livre ce très beau roman, Les Rétifs, publié aux éditions du Manguier. Merci beaucoup Yves d'avoir aussi promptement et merveilleusement mené cet entretien avec notre invité Gerty Damburi. Et nous nous tournons maintenant vers notre ami Patrick Brion. Un film, donc une nouveauté, et un film, une ressortie.
Bah moi aussi, je vais peut-être finalement vous parler de la mémoire et du temps qui passe, d'une certaine manière.
Vous avez changé votre axe
pas du tout.
En entendant Gerty?
Pas du tout, ça tombait bien. Le film qui ressort, c'est La Scandaleuse de Berlin, pour être un bon titre, c'est le film de Billy Wilder, qui s'appelle A Foreign Affair. C'est le film avec Marlene Dietrich, Jane Arthur et John Lund. En 1945, Billy Wilder, bon, vous savez, Billy Wilder est né en Silésie, Billy Wilder était juif. Il est parti en janvier 1933 parce que, comme il dit lui-même, il n'avait pas envie de terminer dans un four. Il est parti aux États-Unis. En 1945, le gouvernement américain le charge de superviser en Autriche et en Allemagne la dénazification du théâtre et du cinéma. Donc, il y va. Et ce qui est très très frappant, c'est que cet homme, donc, qui est juif, qui n'est en aucune façon, il ne peut pardonner quoi que ce soit à Hitler. Mais en même temps, il est extrêmement gêné. Parce qu'il dit, il passe au-dessus de Berlin en avion. Et il dit, et j'ai eu l'horreur de ma vie. J'ai vu la ville, ça il l'écrit avec un majuscule, cette ville exceptionnelle qui était Berlin en 1920, et en début des années 30 jusqu'en 1933, c'était la ville la plus cultivée au monde. De la musique au cinéma, du théâtre à la littérature, tout était à Berlin. Paris a ramassé les miettes de ce qu'a laissé Berlin. En accueillant d'ailleurs avec la plus grande difficulté les gens qui étaient d'origine juive. C'est une autre question, on va en parler un jour.
Bon. Et qui avait fui le nazisme.
Oui. Et qui avait fui le nazisme, naturellement. Et il est terrifié. Il se dit à la fois que ça, c'est quelque chose qu'il ne pourra jamais pardonner à Hitler, c'est en fait d'avoir fait ça à sa ville. Donc, il supervise la dénazification, il supervise un film, qui est un film de montage, très très dur, qui n'est pas sorti en salle en dehors de l'Allemagne, qui était fait pour montrer aux Allemands, qui ne voulaient pas y croire nécessairement, ce qui s'est passé dans les camps de concentration, Bergen-Belsen, Mauthausen, les autres. En 1948, il tourne ce film-là, qui est La Scandaleuse de Berlin, qui commence là aussi par les mêmes plans de Berlin en ruine. Et on voit, alors qu'est-ce que c'est que La Scandaleuse de Berlin? C'est un groupe de sénateurs, il y a une sénatrice, américains, ils sont idiots, ils sont des politiciens idiots, elle un peu moins que les autres, qui viennent à Berlin voir qu'est-ce que font les troupes d'occupation. Alors il faut découvrir qu'est-ce que font les troupes d'occupation américaines, ils font du marché noir, et il y a la fraternisation, ce qui est un euphémisme, avec la gente féminine allemande. Mais, et ces sénateurs sont terribles, parce qu'il y en a qui voient des gosses jouer au ballon. Ils disent, ah, c'est formidable ici, les enfants peuvent jouer au ballon sans risquer de casser des fenêtres. En effet, parce qu'en 1948, il n'y a plus une fenêtre à Berlin. Ça donne une idée du film. C'est un film très très curieux, qui renvoie presque dos à dos des Allemands qui ont pu être des collaborateurs. Le personnage que joue Marlène Dietrich a été à un moment dans la mouvance du Führer. Le personnage John Lund, qui est un officier qui trafique, en fait. Et cette sénatrice que joue Jane Arthur, qui en fait, elle, au contraire, est le seul personnage un peu différent, qui va échapper à cette espèce de cocon idiot de son disons de son patelin américain, et qui va découvrir autre chose en Allemagne. C'est un film très curieux, c'est une comédie sans doute, mais comme toujours chez Billy Wilder, les comédies, on le sait, sont très très amères. Il y a un autre film qu'on peut rapprocher directement de celui-là, qui sera tourné beaucoup plus tard, qui est 1-2-3, le film avec James Cagney, qui se passe à Berlin. Malheureusement, le film a commencé à être tourné le jour où les Russes ont fait construire le mur. Donc, ils ont été obligés d'aller continuer à Munich le tournage. Mais ce sont deux films très curieux. Enfin, là, l'autre n'est pas sorti pour l'instant, c'est La Scandaleuse de Berlin. Curieuse réflexion d'un homme intelligent sur son passé.
Et quelle amertume.
Oui, et passé amertume. Beaucoup plus ambigu qu'on ne croit. Parce qu'il déteste les nazis, naturellement, un peu pas. Mais en même temps, c'était pas normal de faire ça à son pays. Et il finit par regretter, sans doute autant que le nazisme, les bombardements américains et les bombes américaines et les obus russes. C'est un film curieux. Alors l'autre...
Donc en salle d'arrêt d'essai.
En salle d'arrêt d'essai. Alors l'autre, c'est le dernier film de Clint Eastwood.
Ah, qui on s'appelle... sait que vous aimez particulièrement
oui,
j'aime beaucoup Clint Eastwood.
Qui s'appelle Une Nouvelle...
Non, permettez-moi Patrick, hein, il faut rappeler la remarquable monographie que vous aviez consacrée à Clint Eastwood, publiée aux éditions de La Martinière. C'est bien cela, cher Patrick.
Vous êtes toujours indulgent, Paul, merci. Alors, il s'appelle Une Nouvelle Chance. Et là, d'ailleurs, il y a quelque chose d'ailleurs de curieux que, je suis incapable de vous donner une réponse. Depuis 20 ans, Clint Eastwood ne joue que dans des films dont il est le réalisateur. On est bien d'accord. Là, pour la première fois, ce n'est pas lui qui réalise. Enfin, ce n'est pas lui qui réalise en titre. Ceci dit, le film, il le produit, lui, par sa société Malpaso, qui porte le nom du village près de San Francisco dont il est le propriétaire. Et il est réalisé par celui qui est depuis 10 ans son assistant. Qui était l'assistant sur Mystic River, Million Dollar Baby, Space Cowboy, etc. Est-ce que, dans ces conditions-là, on peut penser que Clint Eastwood étant acteur, producteur, et étant un homme qui vérifie le moindre détail, est-ce que ce sympathique assistant réalisateur qui, pour la première fois, fait un film, est-ce que c'est un film de lui ou est-ce que c'est un film d'Eastwood? C'est plus compliqué. On sait par exemple qu'il y a quelques années, Eastwood avait joué, avant 93, un film très étonnant qui s'appelle La Corde Raide, qui était signé par Richard Tuggle. En réalité, c'est un film d'Eastwood. C'est un film très très curieux où Eastwood jouait un policier qui poursuivait un serial killer. Et en fait, c'était les deux faces de l'être humain. La face du ténèbre, le serial killer, et la face pas aussi éclairée que ça, la face du policier. Parce que curieusement, le policier et le serial killer... aller dans les mêmes lieux. Des trucs un peu louches, vous voyez le même type de filles, étaient aussi violents les uns que les autres. Curieux ce fait. Bon, Richard Tuggle, ensuite, il a plus tourné qu'un film, que personne n'a pratiquement jamais vu, et ensuite il a disparu. Donc j'ai tendance à penser qu'Une Nouvelle Chance est beaucoup plus un film de Clint Eastwood qu'un film de Robert Lawrence.
Ah, qu'est-ce que pourquoi, c'est que... pourquoi est-ce que vous dites...
Parce que quand on est producteur, qu'on s'occupe de tout comme Eastwood, je crois que la marge de manœuvre que pouvait avoir ce jeune assistant réalisateur ne devait pas être très grande.
Mais oui. Bon. On vous croit.
Non, c'est possible. Je peux me tromper complètement. On verra dans quelques années quelle sera la carrière de Robert Lawrence, qui toi-même a été pendant 12 ans assistant réalisateur. Pas manifeste.
Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est pas lui qui avait fait les films de Eastwood pendant 12 ans?
Oui. Oui. Alors... Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Une Nouvelle Chance? C'est un film sur le monde du baseball, auquel je ne comprends rien. J'ai déjà vu une quarantaine de films sur le baseball. Je ne comprends absolument rien à ce jeu.
Il semblerait qu'il est plus compliqué, hein, le cricket. C'est encore plus compliqué que le baseball.
C'est vrai. Ah oui, mais j'ai vu moins de films sur le cricket. Le baseball, j'en ai vu plein, je n'y comprends rien. C'est le type qui court d'un endroit, je ne comprends pas.
Bon. Être américain,
mais c'est pas très grave, c'est ça. Oui, il n'est ni américain ni japonais. C'est pas con. C'est pas, ça n'a aucune importance. Clint Eastwood, il joue, non pas un joueur,
un entraîneur.
Un sélectionneur.
Un sélectionneur. Ouais, oui, j'étais.
C'est pas loin. Un vieux sélectionneur qui est complètement anachronique dans le nouveau monde. Parce que dans ce nouveau monde du baseball, les types ont des ordinateurs. Tous les joueurs sont dans la base de l'ordinateur. On calcule s'ils sont bons, s'ils sont pas bons, s'il faut les engager, s'il faut les virer. Le type qui fait d'ailleurs tout ça, qui est un très jeune type, il les voit jamais. Il n'assiste jamais aucun match. Tout est uniquement sur l'ordinateur. C'est le contraire avec le personnage, naturellement, joué par Clint Eastwood, qui les connaît, qui y va, et même si sa vue baisse un peu, il les sent. Il sent en fait si c'est un bon joueur ou non. Et sans trahir l'histoire du film, il y a un type qui est engagé à la fin, il a senti dès le début que ce type était pas bon, parce qu'il était incapable de rattraper les balles courbes, et qu'il avait les mains humides. Il pense avec raison que ce sera un mauvais joueur. On en aura la preuve plus tard. Alors, c'est pas unique. Alors, c'est pas du tout un film sur le baseball. Ça pourrait être un film sur la boxe ou sur le joueur de football. C'est un film sur la vieillesse. Là aussi, ça nous ramène autant. Et sur les rapports avec ses enfants. Clint Eastwood aussi a beaucoup d'enfants. Pratiquement tous de lits différents, sans problème. Dans énormément de ses films, il y a des rapports très précis entre le héros et les enfants. Que ce soit dans Million Dollar Baby, où c'est comme sa fille, naturellement dans Honky Tonk Man, dans des films comme ça. Il est très attaché au monde de l'enfance. Et il est d'autant plus attaché que lui vieillit. Et la grande force de Clint Eastwood a été, contrairement d'autres acteurs qui se font lifter, qui mettent des perruques, c'est de ne jamais cacher qu'il a, il a 82 ans. 82 ans. Donc quand on voit sa, la peau de son cou, eh ben, elle est ridée. Ses cheveux, il en a de moins en moins. Il a un bedon, un petit bedon. Mais il se, manifestement, il s'en fout. Parce que ce qui l'inquiète à la limite beaucoup plus, c'est les rapports avec sa fille. Fille très jolie, jouée par Amy Adams, ce qui paraît-il sera Lois Lane dans la prochaine version de Superman, qui est une jeune avocate. Promise au plus haut niveau, c'est-à-dire elle doit être l'associée dans la compagnie où elle est. Et elle va au contraire se rapprocher de son père. Et ce qui est très beau, c'est que le film, c'est pas... Alors, d'accord, il faut chercher un joueur, il faut donner des notes aux, aux différents joueurs. Bon, d'accord, très bien. Mais c'est surtout les relations qui vont s'établir entre ce père qui n'a jamais eu le temps de s'occuper de cette fille qui a fait des études prestigieuses, qui n'a jamais eu le temps de s'occuper de son père. Ils vont finalement se découvrir l'un et l'autre. Alors autour, il y a d'autres, il y a Justin Timberlake qui joue un etc. C'est ça. C'est un film sur, sur la vieillesse, sur un monde qui passe, et sur les derniers mois, il ne faut pas perdre son temps, parce que c'est le moment où on peut régler, non pas des comptes, mais régler des dettes.
Merci, cher Patrick Brion. Donc on rappelle les deux films que vous nous conseillez.
La Scandaleuse de Berlin et Une Nouvelle Chance.
Merci, de Clint Eastwood.
De Clint Eastwood, oui. Soyons sérieux.
Merci
oui.
beaucoup, cher Patrick. Merci à vous, Yves Chemla, de nous avoir présenté ce remarquable roman et d'avoir venu faire venir son auteur, Gerty Damburi, Les Rétifs, publié aux éditions du Manguier. Très bonne soirée et très bon week-end à tous et à la semaine prochaine.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com. Regard sur les médias, Marc Baudrier.
L'amour de la famille et d'un certain visage de la France l'a emporté. La France du silence, celle qui résiste en souriant, celle qui refuse les dénis de réel imposés par des lobbies bien relayés et peu nombreux. En réunissant 200 000 manifestants à Paris, les opposants au mariage homosexuel et parmi eux les catholiques de France ont emporté une immense victoire médiatique le 17 novembre. Le 13 janvier, l'affluence sera considérable, on parle déjà de 500 000 manifestants. En attendant, la surprise règne et les médias en témoignent. Surprise au cœur du pouvoir d'abord. La fausse reculade de François Hollande sur le droit de retrait des mères le confirme. L'édifice du mariage et de l'adoption homosexuelle avec son impressionnant déploiement médiatique chancelle sur ses bases. Certains de nos dirigeants eux-mêmes peinent à s'y résoudre. Surpris, les manifestants l'ont été eux-mêmes par les cortèges en région et par la colossale mobilisation parisienne. Une avenue noire de monde, d'enfer Rochereau aux Invalides, une foule dense, serrée, heureuse, ouverte, sereine et décidée, une foule gaie, bien plus importante qu'attendue par les organisateurs eux-mêmes. Surprise encore, des catholiques ont mobilisé sans l'appui des grands médias et c'est un enseignement qui se confirme. Plus besoin aujourd'hui de toucher nos médias de masse pour faire descendre dans la rue des milliers d'indignés. Quelques emails, une juste cause, quelques esprits intelligents et décidés, beaucoup d'espoir, beaucoup de prières suffisent. Chapeau à Virginie Merle, alias Frigide Barjot et à ses compagnons de mobilisation au passage. Surprise surtout dans nos médias. Le matin, deux d'entre eux, Le Figaro et Le Parisien, ont eu le nez creux. Ils ont mis la manifestation à la une. Curieusement, La Croix ne l'a pas fait. Surprise sans doute lui aussi. Le seul Le quotidien catholique s'est rattrapé sur Internet et le lundi suivant. Surprise enfin le soir à la télévision. On a ainsi vu le JT de TF1 parler longuement d'une manifestation à Notre-Dame-des-Landes. 10 000 personnes selon la préfecture, 40 000 selon les organisateurs, avant d'aborder celle des Invalides. Elle rassemblait pourtant 7 fois plus de monde selon la préfecture, 5 fois plus selon les organisateurs que la mobilisation de Notre-Dame-des-Landes. Même hiérarchie curieuse sur BFM TV, mais France 2 a logiquement ouvert son chapitre société sur la plus grosse manifestation de la journée, celle des Invalides avant Notre-Dame-des-Landes. Surprise aussi, sans doute, à la préfecture de Paris, dont le chiffre de 70 000 manifestants paraît extraordinaire à ceux qui ont vu l'énorme défilé et qui ont un tant soit peu la notion des foules. L'opinion ne s'y est d'ailleurs pas trompée, la manifestation fait des vagues, occupe toujours nos journaux et fait trébucher le président de la République qui a lâché du lest au maire avant de se reprendre. Surprise, la France du silence existe, elle l'a montré, elle ne virevolte pas dans les médias, elle ne se constitue pas en lobby, elle ne ferraille pas, elle ne s'impose pas, elle ne sort pas ses griffes, mais elle est là. Elle écoute, elle reste calme et sereine, et elle s'indigne et elle refuse. Elle se dresse, cette France silencieuse, contre les manipulations patiemment inoculées des années durant. Elle marche et elle entraîne derrière elle les foules immenses de ceux qui ont pour eux la liberté et l'évidence. Elle entraîne cette France du silence, ceux qui savent qu'un enfant naît d'un homme et d'une femme et qu'il a besoin d'eux.
L'amour tellement possible, l'amour à qui l'entend, regarde autour, à qui le veut vraiment, c'est tellement rien. Mais tellement tout, pourtant qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher tout le temps. Ce sera
Radio Chrétienne parle d'entreprise, cet esprit d'entreprise.
Parce que l'économie et l'entreprise sont des lieux de valeurs humaines d'abord. Chaque semaine, Esprit d'entreprise, ce sont des rencontres, des histoires, des convictions qui vous redonnent la preuve qu'une économie humaine est réellement fructueuse et possible.
Esprit d'entreprise, tous les lundis à 19h30 sur Radio Notre-Dame.
En marche vers dimanche.
Bonjour, c'est Marie-Noëlle Tabu. Je vous propose de lire ensemble chaque semaine les textes de la liturgie du dimanche. Plus je les lis, plus... plus je suis émerveillée par cette parole de Dieu. Vous connaissez la phrase de La Fontaine ? Labourez, prenez de la peine, un trésor est caché dedans.
En marche vers dimanche avec Marie-Noëlle Tabu, du mardi au vendredi à 10h20 et 19h20. Rediffusion le dimanche à 8h.
Les accompagnateurs du service catholique des funérailles sont dépositaires d'une